Chapitre 32.
Alors, vous avez jugé préférable de remettre du noir, ma chère ?
Demanda le duc royal à sa reine, tout en l'aidant à monter dans la voiture. La jeune femme jeta un coup d'œil à sa robe. Ce n'était pas une de celles qu'Eschen lui avait envoyées, mais que Shuden avait fait venir du Duladel par caravane. Moins ample que ne l'exigeait la mode aréloise, le tissu épousait les formes de son corps. De petits motifs en fil d'argent étaient brodés sur le velours souple. Une mante courte couvrait les épaules et le haut des bras de la princesse.
« En fait, elle est bleue, monseigneur, » répondit-elle. « Je ne mets jamais de noir. »
« Ah, bien !»
Le vieil homme portait une tenue blanche et un fin manteau marron foncé. Ses vêtements s'accordaient bien avec sa chevelure immaculée. Le cocher ferma la portière et grimpa jusqu'à son siège, puis le carrosse se mit aussitôt en route. Sa reine observait les rues de Caé plongées dans l'obscurité. Elle se sentait d'humeur tolérante, mais inquiète. Elle ne pouvait esquiver le bal. Royal l'avait organisé à sa demande. Mais elle avait lancé cette idée une semaine auparavant, avant les événements d'Elantris. La jeune femme avait passé les trois derniers jours à réfléchir, à essayer d'analyser ses sentiments et à réorganiser ses plans. Cela lui coûtait de consacrer la nuit à des frivolités, même si ce bal avait sa raison d'être.
« Vous paraissez encore souffrante, votre Altesse, » dit Royal.
« Je ne suis pas tout à fait remise de la mésaventure de l'autre jour, monseigneur, » dit-elle en s'enfonçant dans son siège.
« La journée a été plutôt difficile, » concéda-t-il.
Puis, il passa la tête par la fenêtre de la voiture pour regarder le ciel.
« C'est une bien belle nuit pour le programme qui nous attend. »
Sa reine, l'air absent, acquiesça de la tête. Peu lui importait désormais de voir l'éclipse. Depuis sa diatribe contre Yadon, certains membres de la cour se montraient plus chaleureux avec elle. Le roi, quant à lui, se contentait de l'ignorer. En dépit de ce que Kiyin avait dit, le souverain ne s'était même pas mis en colère. Mais chaque fois que sa reine entrait dans une pièce du palais, les visages se détournaient et les yeux se baissaient. Comme si elle était un monstre, un Svrakis vengeur venu les tourmenter. Les serviteurs ne se comportaient pas mieux. Alors qu'ils s'étaient toujours montrés serviles à son endroit, il semblait vouloir se faire oublier d'elle désormais. On lui avait d'ailleurs servi à dîner en retard. Le cuisinier avait justifié cette attente en prétextant la disparition subite d'une servante. Mais sa reine savait bien que tous redoutaient à présent ses terrifiantes colères. Elle se sentait totalement marginalisée.
« Pourquoi, par le nom béni de Domu ?» se demandait-elle. « Les gens de ce pays se sentent-ils tellement menacés par la présence d'une femme qui possède un tant soit peu de caractère ?»
Évidemment, elle devait reconnaître que cette fois, femme de caractère ou pas, elle avait été trop loin avec le roi. Sa reine payait simplement le fait de ne pas avoir su se maîtriser.
« Bien, sa reine !» déclara Royal. « C'en est assez !»
Sa reine, levant les yeux sur le visage sévère du vieux duc, répliqua.
« Vous disiez, monseigneur ?»«
J'ai dit que cela suffisait. » Selon mes sources, vous avez passé les trois derniers jours à vous morfondre dans votre chambre. Peu m'importe que cette attaque à Elantris vous ait retourné. Vous devez l'oublier, et vite. Nous approchons de mon manoir.
Je ne comprends pas, fit-elle, décontenancée.
Sa reine,
poursuivit Royal d'une voix plus douce. Nous ne vous avons jamais demandé d'avoir l'étoffe d'un chef. Vous avez agi et pris le contrôle des opérations.
Vous ne pouvez pas nous abandonner maintenant à notre cause parce que vous vous sentez blessé. Lorsque l'on accepte le pouvoir, il faut se montrer prêt à l'assumer en toutes circonstances, même lorsque ce rôle semble bien lourd.
Abasourdie par la sagesse du duc, sa reine baissa les yeux, honteuse. « Je suis désolée. »«
Ah, princesse, » dit Royal. « Nous nous sommes tellement reposés sur vous ces dernières semaines. Vous avez gagné nos cœurs et obtenu l'impossible. Vous nous avez unis. Shuden et Ondel vous adorent, Lukel et Kiyin vous soutiennent tels deux rocs inamovibles. J'arrive à peine à percer la subtilité de vos plans. Et même Ahan parle de vous comme de la jeune femme la plus charmante qu'il ait jamais rencontrée. Ne nous laissez pas maintenant, nous avons besoin de vous. »
Comme le rouge lui montait aux joues, sa reine secoua la tête. L'équipage s'arrêta dans l'allée qui menait à la demeure de Royal.
Mais réfléchissez un peu à la situation, monseigneur. Le Gjorn d'Ereti et Yadon ont été neutralisés sans mon intervention. J'ai l'impression que le danger est derrière nous. Royal haussa ses blancs sourcils broussailleux.
Peut-être bien, mais Yadon est plus intelligent qu'il n'y paraît. Le roi a bien des défauts, mais il a su prendre le pouvoir voilà 10 ans et tenir l'aristocratie à la gorge depuis. Quant au Gjorn...
Royal regarda par la fenêtre et aperçut un équipage qui arrivait à leur hauteur. À l'intérieur était assis un petit homme entièrement vêtu de rouge. Sa reine reconnut le jeune prêtre Aonik, l'assistant de Raten. Royal fronça les sourcils.
« J'ai bien peur que nous n'ayons échangé Raten contre un adversaire de la même trempe.
Lui ?» demanda sa reine avec surprise. Elle avait aperçu le jeune homme en compagnie de Raten et remarqué son ostensible ferveur. Cependant, la princesse n'arrivait pas à croire qu'il pût être aussi dangereux que le Gjorn calculateur.
« J'ai bien observé cet individu, » dit le duc. « Il se nomme Dilaf, un arélois, ce qui signifie qu'il a probablement été élevé dans la tradition Khorati. Ceux qui renient leur foi sont généralement plus haineux vis-à-vis d'elle que quiconque. »
« Je le crois bien volontiers, monseigneur, » admit sa reine. « En ce cas, nous allons devoir changer nos plans. Nous n'arriverons pas à circonvenir celui-là comme nous l'avons fait avec Raten. » Royal sourit, l'œil pétillant.
« Voilà la jeune femme que je connais. Venez, je ne tiens pas à arriver en retard à ma propre fête. »
Le duc avait décidé d'organiser une fête chez lui à l'occasion de l'éclipse. Les invités pourraient confortablement l'observer depuis les parterres qui se trouvaient à l'arrière de sa demeure, ce que l'exiguïté relative des lieux imposait. Le troisième homme le plus riche d'Arelon, en effet, était extrêmement pingre.
« Je ne suis duc que depuis 10 ans, sa reine, »
avait expliqué Royal à la première visite de la jeune femme.
« Mais j'ai toujours eu le sens des affaires. Les êtres dispendieux ne font pas fortune. Cette maison me convient, j'aurais peur de me perdre dans un endroit plus grand. »
Les terres autour de la demeure étaient vastes en revanche. Un luxe un peu extravagant, Royal le reconnaissait. Le vieil homme adorait les jardins et passait plus de temps à arpenter ses terres qu'à l'intérieur du manoir. Heureusement, le temps se conformait au plan du duc. Une douce brise soufflait du sud et le ciel était dégagé. Les étoiles palpitaient dans le ciel comme des touches de peinture sur une toile. Sa reine parvint à retrouver les principaux Aons dans les constellations. Rao brillait juste au-dessus de sa tête, un grand carré entouré de 4 cercles avec un point en son centre. Son propre Aon, N, se dessinait imperceptiblement sur l'horizon. La pleine lune atteignait lentement le zénith de sa course. Dans quelques heures, elle disparaîtrait totalement. C'était du moins ce que les astronomes racontaient.
« Alors, » fit Royal tout en lui donnant le bras, « allez-vous m'expliquer la raison de tout ceci ?»«
Comment cela ?»«
Le bal !» répondit Royal. « Vous ne me ferez pas croire qu'il s'agit d'un caprice. Vous en avez choisi la date et le lieu bien trop précisément. Qu'avez-vous en tête ?»
Tout à ses projets, sa reine avait presque oublié la fête. La jeune femme se sentait excitée. D'ici à la fin de la soirée, elle aurait trouvé la réponse à une question qui la taraudait depuis le premier jour de son séjour en Arelon.
« Disons que je tenais à voir l'éclipse en bonne compagnie, » dit-elle avec un sourire discret.
« Oh, sa reine, vous avez le goût de la mise en scène. Vous avez manqué votre vocation, ma chère. Vous auriez dû être comédienne. »
« À vrai dire, cette idée m'a déjà traversé l'esprit, » concéda sa reine. « Évidemment, je n'avais que 11 ans à l'époque. » Une troupe d'acteurs traversait Théouin. Après leur spectacle, j'ai dit à mes parents que je renonçais à mon titre de princesse pour devenir comédienne.
Royal rit.
J'aurais adoré voir la tête de ce vieil Eventéo quand sa fille adorée lui a annoncé qu'elle comptait intégrer une troupe d'artistes itinérants.
Vous connaissez mon père ?
Je n'ai pas toujours été vieux et sénile, dit Royal d'un ton indigné. J'ai beaucoup voyagé autrefois, et tout bon commerçant a des contacts avec le Théode. Votre père m'a reçu 2 fois en audience et chaque fois il s'est moqué de mes vêtements.
Sa reine gloussa. Il est sans pitié avec les marchands. Les terres de Royal entouraient un parterre de gazon, vaste comme une cour que dominait un pavillon de danse en bois. Des murs de haies bordaient les allées qui menaient à des massifs florissants. Des ponts enjambaient des étangs et conduisaient les visiteurs vers des sculptures exposées en plein air. Des torches illuminaient le pavillon.
On les éteindrait juste avant l'éclipse, évidemment. Toutefois, si les choses se déroulaient comme prévu, Saren ne serait alors plus là pour le voir.
« Le roi !» s'exclama-t-elle. « Est-il là ?»«
Bien évidemment !»
répondit Royal, en pointant du doigt un jardin clos orné de sculptures en contrebas du pavillon. Saren reconnut à peine la silhouette de Yadon et celle des chênes près de lui. La princesse se détendit. La réussite de cette soirée reposait sur la présence de Yadon. Bien entendu, ce roi fier n'aurait manqué pour rien au monde le bal du duc. Puisqu'il avait assisté à la fête de Tellery, il était évident qu'il viendrait à celle de Royal.
Quel rôle le roi peut-il bien jouer dans les manigances de la petite Saren ?
Pensa Royal.
Elle a dû charger quelqu'un de fouiller les appartements de Yadon en son absence. Son Séon, peut-être.
À cet instant même, le vieux duc aperçut Haché qui flottait non loin. Saren jeta alors un regard narquois au vieil homme.
Ce n'est pas Haché, à l'évidence, se dit Royal. Cela aurait été trop facile.
Madame, dit Haché tout en faisant la révérence.
Qu'as-tu réussi à découvrir ? Demanda sa reine.
Une servante a effectivement disparu cet après-midi, madame. On raconte qu'elle se serait enfuie pour rejoindre son frère récemment affecté à une demeure provinciale du roi. L'homme jure cependant être sans nouvelles d'elle.
Sa reine fronça les sourcils. Elle avait peut-être jugé un peu trop vite le cuisinier et ses sous-fifres.
Très bien, bon travail.
Que se passe-t-il ?
Demanda Royal d'un ton suspicieux.
« Rien du tout, » répondit Saren, cette fois tout à fait honnête.
Royal hocha la tête d'un air entendu.
« Le problème des gens intelligents, » se dit Saren en soupirant, « c'est que tout le monde pense qu'ils manigancent toujours quelque chose.
« Haché, j'aimerais que tu gardes un œil sur le roi, » fit Saren, consciente du sourire curieux que Royal arborait.
« Il ne devrait pas quitter cette partie du jardin. Si jamais il change d'idée, préviens-moi immédiatement. »
« Bien, madame, »
dit la boule lumineuse avant d'aller se cacher derrière une torche. Royal hocha de nouveau la tête. L'idée de percer les plans de sa reine semblait l'amuser au plus haut point. «
Alors, comptez-vous vous joindre à la fête privée du roi ?»
demanda la princesse pour déjouer l'attention du duc. Royal secoua la tête.
« Sans façon. Cela m'amuserait certainement beaucoup de voir Yadon se tortiller devant vous, mais je n'apprécie pas qu'il fasse bande à part. » « Je reçois ce soir sur votre initiative et un hôte se doit de rester auprès de ses invités. De plus, Yadon devrait se montrer particulièrement insupportable. Il cherche un remplaçant au baron et Dan, et chaque petit baronnet présent à la fête va parader pour emporter le titre.
« Si vous le dites, » dit Saren en laissant le vieil homme l'entraîner jusqu'au pavillon ouvert aux quatre vents, où des couples dansaient. La majorité des invités se tenaient au bord de la piste, conversant les uns avec les autres. Royal gloussa. Sa reine suivit son regard. Shuden et Torena, totalement absorbés l'un par l'autre, tournoyaient près du centre de la piste.
Pourquoi riez-vous ? Demanda sa reine en regardant la fille à la chevelure couleur de feu et le jeune Jindoe.
Parce que du fait de mon grand âge, je suis moins hypocrite que la plupart des jeunes gens, dit Royal avec un sourire diabolique. Il a juré durant des années qu'il ne mangerait jamais de ce pain-là, même s'il s'est toujours rendu au bal, malgré les femmes qui lui tournaient autour. Et voilà que le cœur et l'esprit de Shuden apprécient ses mièvreries, comme tout le monde.
« Vous êtes un méchant vieillard, monseigneur. »«
Bien sûr, » concéda Royal. « Chez les jeunes gens, la méchanceté ne présente aucun intérêt, et la gentillesse des vieillards est tout simplement barbante. Sur ces bonnes paroles, je vais nous chercher quelque chose à boire. »
Le duc s'éloigna. Sa reine continua d'observer le jeune couple danser. Elle trouva le regard de Shuden tellement mielleux qu'elle détourna les yeux. Même si sa reine refusait de l'admettre, Daora avait vu juste. Elle se sentait jalouse, non pas qu'elle eût des vues sur Shuden, mais parce que ce dernier l'avait toujours soutenue, et ce, dès son arrivée en Arelon. Cela lui faisait mal de voir Shuden accorder toute son attention à une autre femme, même si leur situation n'était pas comparable. Il existait une autre raison, plus profonde et plus honnête, à sa jalousie. Cette flamme que Shuden avait dans le regard. Elle enviait sa liberté de pouvoir faire la cour, de tomber amoureux et de se laisser emporter par le tumulte des sentiments. Sa reine rêvait de vivre cela depuis l'adolescence. Le temps avait passé et la jeune femme comprenait à présent que ses désirs ne se réaliseraient jamais. Elle avait bien tenté par le passé de dompter sa personnalité agressive. Lorsqu'elle s'était rendue compte qu'elle intimidait les hommes de la cour de son père, sa reine avait adopté une attitude plus servile, plus docile. Elle avait même été fiancée un temps à un jeune comte du nom de Graéo. Chaque fois que la princesse pensait à cet homme, ou plutôt à ce garçon qu'elle n'avait pas épousé, elle ressentait une certaine pitié. À l'époque, Graéo avait été le seul à croire en la constance nouvelle de sa reine, et avait d'ailleurs essuyé les moqueries de ses pairs pour sa naïveté. La jeune princesse n'avait jamais éprouvé le moindre sentiment pour son fiancé, mais elle l'estimait, en dépit de son caractère peu déterminé. Le garçon était d'une nature hésitante et puérile. Il cherchait toujours à bien faire, à briller dans un monde où la plupart des gens comprenaient les choses infiniment mieux que lui. Sa reine avait fini par rompre leurs fiançailles, non par peur de s'ennuyer, mais parce qu'elle se trouvait égoïste. Elle profitait de l'ingénuité de Graéo, sachant pertinemment qu'il se lançait dans un projet qui le dépassait totalement. Sa reine avait considéré que cette rupture de dernière minute vaudrait au garçon un mépris moins pénible à vivre qu'une femme étouffante. Cette décision avait rangé sa reine dans la catégorie des vieilles filles. Les commentaires étaient allés bon train, insinuant qu'elle avait manipulé Graéo dans le seul but de se moquer de lui. Après cela, le jeune homme avait quitté la cour pour se terrer, tel un ermite, durant 3 ans sur ses terres. Aucun homme n'avait plus jamais osé faire la cour à la fille du roi. Cherchant à s'éloigner quelque temps du Théode, sa reine avait alors intégré le corps diplomatique de son père. En tant qu'émissaire du roi, elle avait visité toutes les grandes villes d'Opellone et du Fjorden, jusqu'à sa capitale svordoise, Seraven. À cette époque, déjà, elle avait émis le souhait de se rendre en Arellon, mais son père s'était totalement opposé à cette idée. Il autorisait à peine ses espions à s'y rendre, alors sa fille unique. « J'ai tout de même fini par m'y rendre », se dit sa reine en soupirant. Elle en était heureuse d'ailleurs. Ses fiançailles avec Raoden avaient eu leur bon côté, malgré la tournure terrible des événements. Pendant la période où ils avaient correspondu par lettre, elle avait retrouvé l'espoir. Même si la vie n'avait pas tenu ses promesses, sa reine se souvenait encore de ce moment privilégié. Et c'était bien plus qu'elle n'aurait jamais cru vivre.
« Vous avez la tête de quelqu'un qui viendrait de perdre son meilleur ami, » fit remarquer Royal en lui tendant une coupe de vin bleu de jade d'or.
« Pas mon meilleur ami, mon mari, » répondit sa reine en soupirant.
« Ah !» dit Royal en hochant la tête d'un air entendu. « Nous devrions peut-être nous éloigner un peu, afin de ne plus avoir la dernière conquête du jeune baron sous notre nez. »«
Quelle excellente suggestion, monseigneur !» commenta sa reine. Ils contournèrent le pavillon. Royal saluait de la tête les invités qui le complimentaient pour la soirée. Sa reine marchait nonchalamment à côté du vieillard, de plus en plus gênée par les regards noirs que certaines dames de la noblesse lui jetaient sur son passage. Mais elle comprit bientôt la raison de cette hostilité. Elle avait totalement oublié que Royal était le meilleur parti de tout l'Arellon. Beaucoup de femmes s'étaient rendues à la fête dans l'espoir de trouver le duc seul. Elle réfléchissait certainement depuis longtemps à la façon d'aborder le vieil homme et de gagner ses faveurs. La présence de sa reine mettait à mal tous leurs espoirs. Royal l'observa et éclata de rire.
« Vous vous en êtes enfin rendu compte, n'est-ce pas ?»«
Voilà pourquoi vous ne lancez jamais d'invitation. » Le duc acquiesça de la tête.
« Il est impossible de s'en défaire. Comment pourrais-je recevoir mes invités avec ces mégères sur mes talons ?»«
Prenez garde, monseigneur. » fit sa reine. Chudaine tenait les mêmes propos la première fois que je l'ai accompagnée à un bal, et voyez où cela l'a menée.
Chudaine emprunte le mauvais chemin, répliqua Royal. Il se contente de fuir, alors qu'il y a toujours plus rapide que soi, même si l'on court vite. Pour ma part, je ne compte pas courir, bien au contraire. Cela m'amuse trop de les faire tourner en bourrique.
L'arrivée d'un couple reconnaissable entre tous fit taire sa reine. Comme à son habitude, Luquel portait une tenue à la dernière mode, une veste bleue brodée de fils d'or et des pantalons brun clair. Jala, sa femme, avait opté pour une robe simple couleur lavande, certainement un modèle Jindoé vu l'absence de décolleté.
« Là, voilà un couple mal assorti où je ne m'y connais pas, » dit Luquel en souriant et en faisant la révérence au duc. « Comment cela ?
demanda Royal. Un vieux duc bougon accompagné d'une ravissante jeune femme ?
En fait, je faisais référence à votre différence de taille, monseigneur, rétorqua Luquel en riant.
Royal leva les yeux en haussant les sourcils. Sa reine le dépassait bien d'une tête.
À mon âge, on fait avec ce que l'on a.
C'est vrai à tout âge, monseigneur, commenta Luquel en regardant sa ravissante femme aux yeux noirs. Nous devons nous contenter de ce que ces dames veulent bien nous donner et nous en montrer reconnaissants.
Sa reine était écœurée, d'abord Chudaine, maintenant Luquel. Ce soir, elle ne se sentait vraiment pas d'humeur à fréquenter des couples qui nageaient en plein bonheur.
Devinant la disposition d'esprit de sa compagne, le duc prit congé de Luquel pour aller saluer les autres convives. Luquel et Jala gagnèrent la piste de danse. Royal entraîna sa reine loin du pavillon pour observer le ciel nocturne dans la lumière vacillante des torches.
Vous allez devoir dépasser cela, sa reine, dit le duc. Vous ne pourrez pas tourner les talons chaque fois que vous croiserez un couple.
Sa reine décida de ne pas lui dire ce qu'elle avait sur le cœur, qu'aucun amour de jeunesse ne durait.
Je ne me comporte pas toujours de cette façon, monseigneur. J'ai eu une semaine difficile. Laissez-moi quelques jours et vous retrouverez la sarène que vous connaissez, la sarène au cœur de pierre.
Sentant de l'amertume dans la réplique de la jeune femme, Royal eut le tact de ne pas relever cette dernière remarque. Le vieil homme concentra son attention sur l'endroit d'où montait un rire familier. Le duc Tellery n'avait visiblement pas rallié la fête privée du roi. Bien au contraire. Il s'entretenait avec un groupe de nobles dans une petite cour située à l'opposé du pavillon où Yadon faisait bande à part. À l'instar du roi, le duc se tenait à l'écart.
« Ce n'est pas bon signe, » dit doucement Royal, énonçant à voix haute ce que sa reine pensait, elle aussi.
« En effet, » répondit la jeune femme.
Elle compta rapidement les flatteurs autour de Tellery, tentant de deviner leur rang, puis regarda de nouveau l'endroit où Yadon faisait la fête. Les deux hommes avaient à peu près le même nombre de partisans, mais l'entourage de Yadon comptait davantage de nobles influents, pour le moment.
« Une autre conséquence imprévue de votre diatribe contre le roi, » dit Royal. « Plus le pouvoir de Yadon semblera instable et plus les alternatives paraîtront séduisantes. »
Sa reine fronça les sourcils lorsque le rire mélodieux et insouciant de Tellery retentit de nouveau. À l'entendre, personne n'aurait pu imaginer que cet homme venait de perdre son partisan le plus fervent, le Giorn Rathen.
« Que manigance-t-il » se demanda sa reine.
« Envisagerait-il de prendre bientôt le pouvoir ?» Royal se contenta de secouer la tête. Après quelques minutes de réflexion, il leva les yeux et s'adressa au ciel.
« Oui ?»
Sa reine entendit Haché approcher et se retourna. Puis, elle vit alors qu'il ne s'agissait pas d'Haché, mais d'un autre Séon.
Les jardiniers me signalent qu'un invité vient de tomber dans la mare, monseigneur,
dit le Séon qui frôla le sol en faisant la révérence. Il parlait d'une voix cassée, mais impassible.
Qui ? Demanda Royal en souriant.
Le seigneur Redéem, monsieur le duc, expliqua le Séon. Il semblerait que le vin ne lui réussisse pas très bien.
Sa reine scrutait discrètement la boule lumineuse, essayant de distinguer l'Aon rayonnant. Elle était convaincue qu'il s'agissait d'Oppa. Royal soupira.
« Les poissons ont dû avoir peur. Merci, Oppa. Veillez à ce que l'on donne des serviettes à Messire Redéem. Qu'on le raccompagne chez lui si cela s'impose. Il devrait éviter de mélanger alcool et eau de mare la prochaine fois. »
Le Séon fit la révérence avant de s'éloigner en flottant vers les missions que son maître venait de lui assigner.
« Vous ne m'avez jamais dit que vous aviez un Séon, monseigneur ?» dit sa reine.
« Beaucoup de nobles en ont un, princesse, » répondit Royal. « Mais personne ne se déplace plus avec. Le Séon rappelle trop Elantris. »
« Il ne bouge donc pas de chez vous ?»
Royal acquiesça de la tête.
« Oppa supervise le travail des jardiniers sur ma propriété. Je trouve que cela lui va bien. Après tout, son nom veut dire fleur. »
Sa reine se tapotait la joue, étonnée par le formalisme et la rudesse qu'elle avait entendue dans la voix d'Oppa. Les Séons qu'elle avait connus en Théode avaient toujours témoigné d'une attitude plus chaleureuse vis-à-vis de leur maître, peu importait leur personnalité.
Mais peut-être qu'ici, sur la terre présumée de leur création,
On les considérait désormais avec répugnance et antipathie.
« Venez, » dit Royal en lui prenant le bras. « Je ne plaisantais pas tout à l'heure. Allons jeter un coup d'œil au service des tables. »
Sarène se laissa entraîner sans résister.
« Royal, espèce de vieux pruneau !»
tonna une voix à leur approche.
« Je suis sidéré, vous savez organiser une fête. Je craignais que vous ne nous entassiez tous dans cette boîte que vous osez appeler une maison. »«
Anne !» dit Royal.
« J'aurais dû savoir que je vous trouverais près du buffet. »
Drapé dans une robe jaune, le comte obèse tenait à deux mains un plat rempli de biscuits salés et de fruits de mer. À l'inverse, l'assiette de sa femme ne contenait que quelques tranches de fruits. Depuis qu'elle suivait assidûment les leçons d'escrime de sa reine, elle avait perdu énormément de poids.
« Évidemment, c'est le meilleur endroit dans une fête !» fit le comte dans un éclat de rire.
Puis, après avoir salué sa reine de la tête,
« Votre Altesse, j'aurais aimé vous recommander de ne pas vous fier à ce vieux Grigou, mais je crains que vous ne soyez aussi dangereuse que lui.
« Moi ?» demanda sa reine avec une indignation feinte. « Et en quoi suis-je un danger ?» Ahan répondit en s'étranglant de rire.
« Demandez cela au roi !»
dit-il en engouffrant une gaufrette dans sa bouche.
« Je peux également vous répondre à titre personnel. Regardez ce que vous infligez à ma pauvre femme, elle refuse de manger !»«
J'apprécie beaucoup les fruits, Ahan !» rétorqua Céaden. « Tu devrais en manger plus souvent. »
« J'en prendrai peut-être tout à l'heure, »
répliqua Ahan, vexé.
« Voyez votre influence, sa reine. Je n'aurais jamais accepté que ma femme participe à vos satanés cours d'escrime si j'avais su que cela abîmerait sa silhouette.
« Abîmé ?» demanda sa reine, surprise.
« Je viens du sud de l'Arellon, princesse, »
expliqua Ahan en se servant des palourdes.
« Nous aimons les rondeurs. Là-bas, les hommes n'apprécient pas les allures d'écolières affamées, vous savez. »
Puis, prenant conscience qu'il avait peut-être été trop loin, Ahan ne poussa pas davantage son explication.
« Sans vouloir vous offenser, bien évidemment. »
Sa reine fronça les sourcils. Ahan était vraiment un homme charmant, mais il parlait et agissait trop souvent sans réfléchir. Ne sachant quoi répondre, la princesse eut un moment d'hésitation. L'adorable duc royal vint alors à sa rescousse.
« Eh bien, Ahan, je vous dis à plus tard. J'ai encore d'autres invités à saluer. Oh, une dernière chose. Votre caravane devrait se dépêcher d'arriver. »
Ahan leva les yeux tandis que Royal entraînait sa reine loin de lui.
« Une caravane ? »
demanda-t-il, soudain extrêmement sérieux.
« Quelle caravane ? » ?»« Comment cela ? Mais celle qui transporte pour votre compte des melons fermentés du Duladel aux Svorden ! »
fit le duc avec désinvolture.
« J'en ai moi-même fait partir un plein chargement la semaine dernière. Il devrait arriver ici demain matin. Je crains, mon cher ami, que le vôtre ne livre un marché bien saturé. » « Sans compter que vos melons seront blés !»
Ahan jura, son assiette lui glissa des mains, et les fruits de mer tombèrent négligemment sur l'herbe.
« Pardomu, comment savez-vous cela ?»«
Oh, vous n'êtes pas au courant !»
fit Royal.
« J'ai participé pour moitié dans l'entreprise du jeune Luquel. En contrepartie, il m'a donné les fruits mûrs de sa cargaison la semaine dernière. Enfin, il devrait l'être lorsqu'ils atteindront Svorden. »
Ahan secoua la tête en riant sous cap.
« Vous avez réussi à m'avoir cette fois encore, Royal. Mais prenez garde, un de ces jours, je risque de vous surprendre. Vous serez incapable de vous regarder dans un miroir pendant une semaine tellement vous vous sentirez humilié. Vous devriez attendre que cela arrive avant de vous réjouir, »
commenta Royal, tandis qu'il quittait les tables de réception. Sa reine gloussa en entendant Céaden réprimander son mari. « Vous êtes aussi fort en affaires que ce que l'on dit de vous, n'est-ce pas ?» Royal se frotta les mains en signe d'humilité avant de répondre.
« Oui, c'est ce que l'on raconte. »
Sa reine rit.
« Toutefois, » poursuivit Royal, « votre jeune cousin me donne du fil à retordre. Je n'arrive pas à savoir comment il a fait pour cacher ce chargement de melons fermentés. Mes agents en République du Laden sont censés me tenir au courant de ce genre de choses. Si Luquel ne m'avait pas sollicité pour les fonds, je n'aurais pas eu vent de cette transaction. »
Heureusement qu'il n'a pas été voir Ahan.
« Oui, c'est une très bonne chose, en effet, »
lui accorda Royal.
« Je n'aurais jamais eu le fin mot de cette histoire s'il l'avait fait. Depuis bientôt 20 ans, Ahan essaie de me battre. Il ne comprend toujours pas que la seule chose qui m'amuse dans cette histoire, c'est de voir sa tête chaque fois que je le coiffe au poteau. Le jour où il le comprendra, ma vie deviendra tout à coup bien moins amusante. »
Ils continuèrent de marcher, parlant avec des invités et profitant des merveilleux jardins de Royal. Des torches, des lanternes et des bougies éclairaient judicieusement les parterres aux fleurs déjà écloses. Mais les arbres aux essences hybrides faisaient plus forte impression encore avec leurs branches chargées de fleurs roses ou blanches et décorées de lanternes. Sa reine s'amusait tellement qu'elle en perdit presque la notion du temps. Ce n'est que lorsqu'elle aperçut Haché qu'elle se souvint de l'enjeu de la soirée.
« Madame !» s'écria Haché. « Le roi est en train de partir !»«
Tu en es sûre ?»
demanda-t-elle d'un ton brutal en détachant son regard des fleurs.
« Absolument certain, madame !» répliqua Haché. Il s'est éclipsé discrètement pour aller au lieu d'aisance, mais en réalité, il a fait venir sa voiture.
« Veuillez m'excuser, monseigneur !» dit sèchement sa reine au vieux duc. « Mais je dois partir !»«
Sa reine ?»
demanda Royal, dérouté de voir la jeune femme s'éloigner précipitamment. Puis, il l'appela de nouveau.
« Sa reine, vous ne pouvez pas vous en aller maintenant !»«
Je suis désolée, monseigneur, mais j'ai une chose importante à faire !»
Il essaya de la suivre, cependant la princesse avait de trop longues jambes pour lui. De plus, le duc devait s'occuper de la fête. Il ne pouvait abandonner ses invités au beau milieu de la soirée. Sa reine longea la maison de Royal et arriva juste à temps pour voir le roi monter à bord de son carrosse. Elle jura. Pourquoi n'avait-elle pas pensé à faire venir sa propre voiture ? Puis regarda autour d'elle, cherchant désespérément un véhicule à réquisitionner. Elle en aperçut un tandis que la voiture royale s'éloignait dans un fracas de sabots.
« Madame !» prévint Haché. « Le roi ne se trouve pas à bord de cette voiture. »
Sa reine se figea.
« Quoi ?»«
Il est descendu par l'autre portière avant de disparaître dans l'obscurité. L'équipage n'était qu'une ruse. »
Sa reine ne se donna pas la peine d'interroger le Séon. Il avait l'essence bien plus aiguisée que n'importe quel humain.
« Allons-y, » dit-elle.
« Ma tenue n'est pas des plus discrètes. Tu vas devoir le suivre et revenir régulièrement vers moi pour m'indiquer le chemin. »«
Oui, madame, »
répondit Haché, tout en baissant l'intensité de sa lumière jusqu'à ce qu'elle fût presque imperceptible. Puis, il s'envola à la poursuite du roi, laissant sa reine derrière lui. Ils firent ce que la jeune femme avait préconisé. Haché volait non loin du roi, tandis que la princesse maintenait une distance moins compromettante. Ils quittèrent bientôt la propriété de Royal et pénétrèrent dans Caé. Yadon n'empruntait que les ruelles. Sa reine comprit soudain qu'elle prenait beaucoup de risques. Aucune femme ne se promenait seule après la tombée de la nuit. Pas même à Caé, qui était pourtant l'une des villes les plus sûres d'Opélone. Elle pensa faire demi-tour à plusieurs reprises, et faillit même prendre ses jambes à son cou lorsqu'un ivrogne surgit de la pénombre. Toutefois, sa reine tint bon. Elle souhaitait absolument découvrir ce que Yadon manigançait, et la curiosité la taraudait bien plus que la peur, pour l'heure. Haché, conscient du danger, dit à la jeune femme qu'il préférait continuer seule, mais elle se mit à marcher plus vite. Habitué à ce genre de réaction de la part de sa maîtresse, le Séon ne revint plus sur le sujet. Il se contenta de faire des allers-retours, tentant de garder un œil sur sa reine et de suivre le roi. Finalement, le Séon ralentit son allure et revint vers sa reine. Il volait avec nervosité.
« Il vient juste de pénétrer dans les égouts, madame. »«
Les égouts ?» demanda sa reine, incrédule.
« Oui, votre Altesse, et il n'est pas seul. Deux hommes encapuchonnés l'ont rejoint juste après la fête, puis une demi-douzaine à l'entrée des égouts. »
« Et tu ne les as pas suivis ?»
demanda-t-elle, déçue.
« Nous n'arriverons jamais à retrouver leurs traces. »
« Malheureusement, madame. »
Sa reine grinça des dents d'énervement.
« Ils vont laisser des empreintes dans la boue, » dit-elle d'un air convaincu, reprenant sa traque. « Tu devrais pouvoir les suivre sans difficulté. »
Haché eut un moment d'hésitation.
« Madame, permettez-moi d'insister, mais je pense sincèrement que vous devriez retourner à la fête du duc. »«
Certainement pas, Haché.
J'ai le devoir de vous protéger, votre Altesse. » dit Haché. « Je ne peux pas vous laisser marcher en pleine nuit au beau milieu des ordures. Je n'ai pas le droit de vous laisser faire une chose pareille. Je compte bien vous en empêcher avant que tout ceci n'aille trop loin. »«
Et comment comptes-tu t'y prendre ?»
demanda sa reine avec impatience.
« Je pourrais prévenir votre père. »«
Père vit en Théode, Haché, »
lui fit remarquer sa reine.
« Que pourrait-il bien faire ? » ?»«
Je pourrais aller chercher Messire Eondel ou quelqu'un d'autre.
Et me laisser seule ici pour que je me perde dans les égouts ?
Vous ne feriez pas une chose aussi stupide, madame, déclara Haché.
Il s'arrêta. Il semblait hésiter. Son ahon brillait si faiblement qu'on le voyait à peine.
Très bien, finit-il par dire. Vous êtes assez stupide pour cela.
Sa reine sourit. Allez, viens. Plus les traces seront fraîches et plus nous aurons de chance de les retrouver. Maussade, le Séon parcourut la rue et déboucha bientôt sur une voûte sale et pleine de moisissures. Sa reine marcha dans sa direction d'un pas déterminé, sans craindre que la boue tache sa robe. La lumière de la lune n'éclairait que le premier carrefour. Sa reine resta immobile un moment dans l'obscurité totale, étouffante et humide, comprenant quel risque elle aurait pris si elle avait pénétré dans ce dédale sans guide, malgré les mises en garde de son Séon. Heureusement, elle avait réussi à convaincre Haché. Elle ne savait pas en revanche si elle garderait rancune au Séon du degré d'idiotie et d'orgueil qu'il lui concédait. Haché se mit à briller plus fort. Les égouts ressemblaient à un long tube creux. Ils dataient de l'époque où, grâce à la magie, chaque maison de Caé avait l'eau courante. Ils ne servaient plus à présent que pour les ordures et les excréments. Un bras détourné de l'arrêt d'elle les nettoyait régulièrement à grandes eaux. Ceci n'avait visiblement pas eu lieu depuis longtemps. La boue humide qui s'accumulait à l'entrée du couloir arrivait jusqu'aux chevilles. Sa reine préféra ne pas se demander de quoi cette fange était faite, mais son odeur âcre fournissait une indication peu engageante. Pour la jeune femme, tous les tunnels se ressemblaient. Une seule chose la rassurait, le sens de l'orientation du Séon. Il était impossible de se perdre en compagnie d'Haché. Ces créatures savaient se repérer et pouvaient indiquer le chemin à suivre sans l'avoir jamais emprunté. Haché la guidait. Il voltait à la surface de la gadoue. « Madame, puis-je savoir comment vous avez deviné que le roi quitterait la fête ?»«
Tu dois bien avoir une idée sur la question, Haché !»
le gronda-t-elle.
« Laissez-moi vous dire, madame, que je n'ai pas l'ombre d'une piste. »«
Ah oui ? Et quel jour sommes-nous ?»«
Maédal ?»
répondit le Séon tout en tournant à l'angle.
« Oui, et que se passe-t-il généralement chaque semaine, le Maédal ?»
Haché prit son temps avant de répondre.
« Votre père joue au Shinda avec Messire Eoden ?»
demanda-t-il d'une voix teintée d'un agacement inhabituel. Les activités de la nuit, et la belligérance de sa reine en particulier, commençaient à lasser sa patience infinie.
« Non, » répondit-elle. « Chaque semaine, le Maédal à 11 heures, quelqu'un gratte dans le passage qui se trouve de l'autre côté du mur de ma chambre, celui qui conduit aux appartements du roi. »
Le Séon émit un discret « Ah !»«
J'entends parfois des bruits dans le passage d'autre soir, » expliqua sa reine, « mais systématiquement le Maédal. »
Alors vous avez demandé à Royal d'organiser une fête ce soir-là, parce que vous vous doutiez que le roi ne changerait pas ses habitudes,
dit le Séon.
Exactement, répondit sa reine, tout en essayant de ne pas glisser dans la boue. Et il fallait organiser cette fête tard dans la soirée pour que les gens restent au moins jusqu'à minuit. L'éclipse m'a offert l'occasion rêvée. Je savais que le roi viendrait à cette soirée, par orgueil. Et pourtant, son rendez-vous est suffisamment important pour qu'il ait quitté la fête aussitôt.
« Madame, tout cela ne me dit rien qui vaille, » dit Haché. « Dans quel but bien intentionné peut-on se rendre dans les égouts à minuit ?»«
C'est ce que j'ai l'intention de découvrir, » rétorqua sa reine, en écartant une toile d'araignée de la main.
Une pensée surtout la motivait à marcher dans la boue et l'obscurité. Une possibilité à laquelle elle préférait à peine penser. Le prince Raoden était peut-être toujours en vie. Yadon le retenait peut-être prisonnier dans ses égouts et non dans un cachot. Sa reine n'était peut-être pas veuve après tout. Ils entendirent du bruit loin devant eux.
« Éteins-toi, Haché !» dit sa reine. « Il me semble avoir perçu des voix !»
Le Séon s'exécuta aussitôt et devint pratiquement invisible. Ils arrivèrent à un carrefour. La lumière d'une torche trembla dans le tunnel situé sur leur droite. Sa reine se posta à l'angle sans faire de bruit pour jeter un rapide coup d'œil. Malheureusement, son pied glissa dans la pente légère qui démarrait juste avant l'intersection. Elle réussit à retrouver l'équilibre en écartant les bras. Mais la glissade l'avait propulsée au beau milieu de l'intersection. Sa reine leva lentement les yeux. Elle vit alors Yadon qui se retournait lentement, l'air aussi abasourdi qu'elle. Domu miséricordieux, murmura Sarène. Le roi était debout derrière un autel, un couteau ensanglanté à la main. Les restes d'une jeune femme éventrée étaient étendus sur le plateau en pierre. Elle avait le torse entièrement ouvert, du cou jusqu'à l'entrejambe. Le couteau tomba des mains du roi et heurta la boue avec un bruit étouffé. Sarène aperçut alors 12 silhouettes vêtues de robes noires derrière le roi. Leurs vêtements arboraient des runes d'Uladen brodées. Chaque individu était armé d'une longue dague. Ils encerclèrent rapidement la jeune femme. Sarène hésita durant quelques secondes entre le besoin pressant de vomir et celui, irrépressible, de crier. Le cri l'emporta. Elle trébucha en arrière, glissa et tomba dans la vase. Les silhouettes masquées aux yeux scrutateurs se ruèrent alors sur elle. Sarène donna des coups de pied et se débattit dans la boue en hurlant. Comme elle essayait de se relever, elle n'entendit pas les pas qui approchaient sur sa droite. Éondel surgit de l'ombre. L'épée du vieux général étincela dans l'obscurité et trancha net un bras qui tentait d'attraper la princesse par la cheville. D'autres silhouettes affluaient dans le corridor, des hommes qui portaient les couleurs de la Légion d'Éondel. La jeune femme aperçut une robe rouge, Dilaf, le prêtre d'Hérétie. Il resta sur le côté à observer la scène. L'homme semblait totalement fasciné. Alors qu'elle se sentait sur le point de s'évanouir, Sarène tenta une nouvelle fois de se remettre debout. Elle glissait dans les eaux usées lorsqu'une main l'attrapa par le bras et la soutint. La jeune femme reconnut Royal. Un sourire apaisé barrait son visage ridé.
« La prochaine fois, vous me parlerez peut-être de vos projets avant de les mettre à exécution, princesse »
suggéra-t-il.
« C'est toi qui l'as prévenu !» comprit soudain Sarène en jetant un regard noir à Haché.
« Bien entendu, madame !»
répondit le Séon en palpitant légèrement pour appuyer sa remarque. La princesse était assise dans le bureau de Royal en compagnie d'Haché et de Lukel. Elle portait une robe que le duc avait empruntée à une servante. Le vêtement était trop court, évidemment, mais la princesse avait préféré le passer plutôt que de garder sur elle l'odeur de la boue malodorante.
« Quand ça ?»
demanda Sarène en s'enfonçant dans le divan moelleux. Elle était enveloppée dans une couverture. Le duc avait ordonné que l'on fasse couler un bain pour la jeune femme et elle avait encore les cheveux mouillés. L'air de la nuit la faisait frissonner.
« Il a appelé Oppa à l'instant même où vous m'avez faussé compagnie !»
expliqua Royal en pénétrant dans la pièce, trois tasses fumantes dans ses mains. Il entendit une à la jeune femme et une autre à Lukel avant d'aller s'asseoir.
« Sitôt ?»
demanda Sarène, sur un ton surpris.
« Je savais que vous n'accepteriez jamais de faire demi-tour, quoi que je vous dise, »
fit Haché.
« Tu me connais trop bien !»
marmonna-t-elle en avalant une gorgée de tisane bien chaude. C'était du Gara Fjordel, une boisson apaisante parfaite en la circonstance, car elle aidait à trouver le sommeil.
« Je ne vous contredirai pas sur ce point, madame, » fit Haché.
« Alors pourquoi as-tu essayé de m'empêcher de descendre dans les égouts ? »
demanda-t-elle.
« J'essayais de gagner du temps, madame, » expliqua le Séon. « Le duc m'avait clairement signifié qu'il voulait venir, et sa petite troupe mettait du temps à arriver. « Je suis peut-être lent, mais je ne voulais manquer votre expédition pour rien au monde, Sarène, »
expliqua Royal.
« On dit que la sagesse vient avec l'âge. En ce qui me concerne, le temps confère plutôt à mon caractère un regain de curiosité. »
« Et les soldats d'Éondel ?»
demanda Sarène.
« Ils se trouvaient déjà sur place à la fête, » dit Lukel.
Il les avait rejoints sitôt qu'il avait vu Sarène entrer discrètement dans le manoir de Royal, entièrement couverte de vases.
« J'avais reconnu certains d'entre eux parmi les invités. « J'avais convié les officiers d'Éondel à se joindre à nous, » expliqua Royal. « Enfin, pas toute leur garnison, seulement les 6 qui se trouvaient en ville. »«
Très bien, » dit Sarène. « Si je comprends bien, Haché a prévenu votre Séon qui vous a aussitôt prévenu que je quittais la fête pour poursuivre le roi. »«
Cette inconsciente va se faire tuer !» furent ses paroles exactes, je crois, »
répliqua Royal en gloussant.
« Haché !»«
Veuillez me pardonner, madame, »
dit le Séon qui clignota de gêne.
« Je n'étais pas vraiment moi-même. »«
Si je comprends bien, » continua sa reine, Haché a appelé Royal, qui a aussitôt quitté la fête pour se lancer à ma poursuite avec Éondel et ses hommes. Vous avez réussi à me retrouver dans les égouts grâce à votre Séon.
Et parce qu'Eondel vous a entendu crier,
compléta Royal.
Estimez-vous heureuse que ces hommes vous soient dévoués, princesse?
Oui, je sais, dit Saren. Son épée m'a sauvé la vie par deux fois cette semaine. Lorsque je croiserai Yadon, rappelez-moi de lui flanquer un coup de pied bien senti. Dire qu'il a convaincu la noblesse que l'entraînement militaire était indigne d'eux.
Royal rit.
Vous allez devoir prendre la file d'attente, princesse. Je doute qu'aucun prêtre de la cité, Dereti ou Korati, ne laisse le roi en paix maintenant que sa pratique des mystères Jeskeri est connue de tous.
Et parce qu'il a sacrifié cette pauvre femme,
dit Saren, doucement.
La jeune femme avait prononcé ces dernières paroles d'une voix brisée. Elle frissonna en repensant à l'autel entièrement couvert de sang et à son occupante.
Haché a raison, se dit-elle, soudain sombre. Ce n'est pas le moment de plaisanter.
Alors, c'est donc vrai, il s'agit bien de cela ?
Demanda Lukel.
Sa reine acquiesça. Au cours de certaines cérémonies, on fait des sacrifices. Yadon devait chercher à obtenir quelque chose.
Notre ami Dereti nous a fait part de son point de vue sur le sujet, dit Royal. Il semble penser que le roi sollicitait les esprits de Jesker afin qu'il tue quelqu'un pour lui.
Moi ? Demanda sa reine, soudain glacée malgré sa couverture. Royal lui confirma d'un signe de la tête.
L'Artet d'Ilaf a lu des directives en ce sens sur l'autel, inscrites dans le sang de la femme.
Sa reine se mit à trembler. Eh bien, nous savons maintenant pourquoi les cuisinières et les servantes disparaissaient du palais.
Royal opina du chef.
Je pense qu'il devait pratiquer les mystères depuis longtemps, peut-être depuis le Réode même. Apparemment, il dirigeait cette bande.
Et les membres de cette bande, qui sont-ils ? Demanda sa reine.
Des nobles de second plan, dit Royal. Yadon n'aurait jamais impliqué des individus compromettants.
Une minute, fit sa reine, les sourcils froncés. Que faisait le prêtre d'Ereti là-bas ?
Royal regarda sa tasse, soudain mal à l'aise.
C'est ma faute. Il m'a vu avec les hommes d'Eondel, j'étais pressée, et il nous a suivis. Nous n'avions pas le temps de nous préoccuper de lui.
Soudain de mauvaise humeur, sa reine avala une gorgée de thé. Les événements de la soirée ne s'étaient vraiment pas déroulés comme elle l'avait prévu. Ahan apparut dans l'encadrement de la porte.
« Ragdomu, sa reine » déclara-t-il. « D'abord vous vous opposez au roi, ensuite vous lui portez secours et maintenant vous le faites tomber en disgrâce. Est-ce que vous pourriez enfin vous décider une bonne fois pour toutes ?»
Sa reine remonta ses jambes contre sa poitrine et posa le menton entre ses genoux en grognant.
« Il n'y a aucun moyen de garder toute cette histoire secrète, n'est-ce pas ?»«
Non, aucun !» déclara Royal. « Le prêtre d'Ereti s'est déjà chargé de tout raconter à la moitié de la ville. »« Telri va certainement prendre le pouvoir, »
dit Ahan en secouant la tête.
« Où est Eondel ?»
demanda sa reine, la voix à moitié étouffée par les couvertures.
« Il met le roi en prison, » répondit Ahan.
« Et Shuden ?»«
Je présume qu'il doit être en train de s'assurer que les dames présentes à la fête rentrent chez elles sous bonne escorte, »
dit Lukel.
« Très bien, » fit sa reine en levant les yeux et en écartant les cheveux qui la gênaient. « Nous ferons sans eux. Messieurs, j'ai peur de devoir interrompre ce bref moment de répit. Nous avons des choses importantes à accomplir. Avant tout, nous devons éviter que la situation n'empire. »